des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Émilie Julia.
Olivier Barraud, bonjour.
Bonjour.
Merci de venir dans cette émission. Vous êtes journaliste, écrivain, producteur. Vous animez entre autres cette émission phare qui s'intitule « Un livre un jour » sur France 3 depuis 1991. Alors, une belle longévité au royaume du changement furtif, à quoi la doit-on ?
À mon immense talent, bien entendu. Mais en dehors de ça, je ne crois pas à ce que je viens de vous répondre. Je pense simplement que c'est une émission utile, c'est une émission de service, beaucoup plus qu'une émission de critique littéraire. On l'a voulu dès l'origine comme une espèce de garde-triage, au fond, destinée à orienter le lecteur de bonne volonté, mais qui ne sait pas tout, vers les bons trains. Donc on est beaucoup plus dans le conseil que dans les considérations critiques, et je pense que ça rend effectivement service à des nombreux, très nombreux téléspectateurs et internautes désormais. Et que du fait de cette utilité, puis aussi de la modicité du coût de l'émission, elle a perduré au long, et vous l'avez souligné, d'une longue, très longue période, près de 20 ans, ce qui est effectivement supérieur à la moyenne, mais que je n'aurais pas auguré quand j'ai commencé.
Absolument. Vous y faites découvrir des auteurs, des livres, des auteurs connus et moins connus. Vous les choisissez en fonction de leur originalité, de leur consistance intellectuelle ou singulière. Bien souvent, vous allez chercher en dehors des sentiers battus. Ainsi, vous invitez des auteurs jeunes ou moins jeunes, de toute nationalité, toutes origines sociales. Vous aimez la littérature. Est-ce que vous avez envie de la faire partager par sa transversalité ?
Oui, si j'y arrive. C'est-à-dire qu'une fois encore, quand on m'a sollicité pour concevoir cette émission, pour la présenter, pour d'une certaine manière l'incarner, le propos était beaucoup plus flou qu'il ne l'est aujourd'hui, puisque nous tâtonnions les uns et les autres. On avait l'idée de quelque chose de bref et de quotidien. Et j'étais déjà, il faut bien le dire, pour le meilleur et pour le pire, un homme du livre. C'est-à-dire que j'ai toujours procédé dans cet univers, j'ai toujours lu, écrit, aimé ça. Et j'ai toujours pensé que bon, ça valait peut-être la peine d'essayer de faire partager ces différentes pentes, si je puis dire, dangereuses, ô combien. Et l'occasion m'en a été donnée, effectivement, en 91, vous l'avez rappelé, et il m'a semblé que, puisque l'émission allait être brève, il fallait qu'elle soit perceptible à un grand nombre, voire au plus grand nombre. D'où l'éclectisme, d'où les différents types d'ouvrages, d'une accessibilité variable, mais en général j'essaie de parler à tout le monde, de faire en sorte que les auteurs conviés soient intelligibles pour tous les téléspectateurs, d'où ce souci vraiment d'être entendu, d'être compris à la première vision, d'être clair et éventuellement enthousiaste et même, je vais jusqu'à dire, peut-être un peu compétent, en tout cas enthousiaste et porté vers le partage du savoir et du goût invétéré qui est le mien pour la lecture.
Vous vous sentez plutôt journaliste, écrivain, producteur, animateur ?
Non, je me sens journaliste. J'ai effectivement la charge de la production de cette émission et j'ai commis quelques ouvrages. Mais je me sens d'abord et avant tout, et ce n'est pas restrictif, je me sens journaliste. C'est-à-dire que je pense que le journalisme, c'est une façon d'être, au moins autant qu'une profession. C'est une forme de curiosité, j'oserais dire de générosité, de goût du partage, de l'information, du savoir, de l'enthousiasme. Et oui, je vis ça, il n'y a pas de doute. Donc c'est une qualification qui me convient, au-delà même de la détention ou pas de la carte tricolore qui qualifie la profession. Mais oui, je me sens journaliste et ça me va comme ça.
Alors, vous êtes aussi un fin connaisseur de cinéma et de théâtre. On vous doit des livres consacrés à de grands, grands auteurs comme Sacha Guitry ou de grands acteurs comme Gérard Philippe. Vous aimez vous dépasser, vous aimez étonner d'une certaine manière. Vous créez en 2001 le magazine Senso, délectable magazine des sens et des mots. Vous enseignez à Sciences Po, à la NYU, l'Université de New York, à l'Université de Montréal. Enfin, on a l'impression que vous êtes un peu partout. D'ailleurs, c'est le cas dans les avions. Vous en faites beaucoup à ce rythme-là et dans de très nombreux pays. Le voyage, comme vous dites, c'est l'ailleurs, au coin de la rue. Et comme on sait tous, les Lévi-Strauss détestaient les voyages et les explorateurs. Vous-même, vous en pensez quoi de ces voyages ? Est-ce que c'est le mot qui qualifie votre parcours dans les avions ?
Ah oui, oui, oui. Moi, je ne me sens pas plus touriste que je me serais senti critique, vous voyez, pour revenir à la littérature. Je ne sais pas, je suis pénétré par une forme de curiosité effectivement difficile à épuiser, parce que ça fait quand même 50 ans que je parcours cette planète dans tous les sens. J'espère que ça n'est pas terminé, que ça se poursuivra jusqu'à la fin. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Il faudrait pratiquer une introspection qui ne m'est pas familière. J'avais 2-3 points de, comme ça, pierre d'achoppement dans mon capital génétique, qui étaient les livres, incontestablement, le spectacle et le voyage. Je crois que les trois, à eux seuls, finalement, englobent assez bien mes curiosités, mes envies, quelquefois mes compétences, et en tout cas mon appétit qui n'est jamais rassasié. Alors voilà, oui, voyage, mais le voyage, ça commence d'abord en bas de chez soi, mais c'est aussi le goût des livres. Il est évident, pardon de cette banalité, mais ouvrir un livre, prendre connaissance de la personnalité d'un écrivain, d'un auteur, c'est d'une certaine façon faire un voyage vers lui, tout comme il a fait un voyage vers nous en écrivant l'ouvrage en question. Alors, le voyage, ça peut être matériel, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut prendre l'avion, ça m'arrive souvent, mais flâner dans une librairie, entrouvrir les étals des bouquinistes tout près d'ici, sur les quais de la Seine, ce sont des choses que je pratique couramment et qui sont accessibles à tous.
Effectivement, et vous ne connaissiez pas le studio de Canal Academy, puisque c'est la première fois que nous avons le plaisir de vous recevoir, et pourtant ce lieu ne vous est pas étranger. Puisque nous nous situons effectivement 23 quai de Conti, c'est-à-dire au sein même de l'Institut de France, et Jean Dutour de l'Académie française vous y a remis le 26 mars 2009 le prix Richelieu. Ce prix consacre une personnalité pour son combat en faveur de la défense de la langue française. Et j'aimerais que vous nous disiez un mot sur ce combat-là. On peut dire en effet que vous êtes fervent francophile et francophone. Vous présentez des écrivains français à l'étranger. N'êtes-vous pas le seul, le premier à l'avoir initié depuis déjà quelques années et surtout en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Québec? Alors pourriez-vous nous parler de cette expérience-là? Comment l'idée vous est-elle venue? Est-ce que pour vous c'est important d'aller dépasser les frontières outre-Atlantique pour parler des écrivains français, pour les faire connaître?
Écoutez, il ne vous a pas échappé que j'ai beaucoup de tort, mais on ne peut pas me questionner quant à mon amour de la littérature. Donc j'aime les écrivains, j'aime l'expression dans cette langue qui est la nôtre. Non pas que ce soit la seule ni la plus belle, mais la langue française a beaucoup d'atouts du point de vue de la littérature pure, et ce depuis très longtemps. Je veux dire par là que c'est une langue constituée depuis un millénaire. C'est le cas d'autres langues européennes, mais enfin, c'est incontestable en ce qui concerne la langue française, la nôtre. Bon. D'autre part, le fait est que j'ai toujours été attiré par ceux qui ne pensent pas comme nous, qui ne s'expriment pas dans la même langue que nous, qui ont d'autres parcours, d'où mon goût des voyages. Alors, conjoindre les deux, ça consistait à pratiquer ce que vous venez d'énoncer, c'est-à-dire d'évoquer la littérature française ailleurs que devant des audiences françaises ou francophones. C'est ce qui m'est advenu. Alors, c'est vrai que je l'ai beaucoup voulu, je l'ai beaucoup souhaité, je l'ai même carrément organisé, hein. Ces mystères me dépassant, je les ai organisés, comme aimait à dire Jean Cocteau. C'est-à-dire qu'il m'a semblé que, puisque j'étais en relation assez étroite avec l'Université de New York, NYU, New York University, je pouvais peut-être tenter d'y installer un cycle de rencontres autour des écrivains français d'aujourd'hui. Je n'ai pas eu beaucoup de difficultés à en convaincre le responsable le plus éminent de l'enseignement du français et de la littérature française dans cette université, qui s'appelle Tom Bishop, qui est un grand francophile, un grand francophone aussi, grand connaisseur de Paris, de sa littérature, etc. Et je lui ai proposé quelque chose. On a trouvé les moyens de faire fonctionner tout ça. Soyons clairs, on a trouvé les moyens financiers. Hein. Ce n'est pas la peine de se cacher
derrière. Ça démarre toujours par là.
Ben oui, bien sûr. L'université en Amérique est privée. Elle est bien dotée par rapport à la française. Je trouve d'ailleurs que la française n'est pas si mal dotée que ça. Et bon, on a trouvé des concours, des soutiens, toutes sortes de commanditaires qui ont trouvé cette démarche-là intéressante, moyennant quoi j'emmène effectivement aux États-Unis une fois par mois un écrivain français d'aujourd'hui. Et je converse avec lui en une discussion assez approfondie. Je converse de son œuvre, de son inspiration. Voilà, et nous le faisons devant les étudiants, devant des francophones, des francophiles, des Américains, des Français, des Canadiens, des Haïtiens aussi, car il en est beaucoup à New York. Voilà, donc oui, c'est ce souci-là de justifier, d'expliquer, d'illustrer. La culture française n'est pas menacée. Je pense qu'il faut l'illustrer plus que la défendre. J'ai essayé, ou j'essaie, cela se poursuit, de montrer que l'expression en français, ça a un sens. Que ça fait 1000 ans que ça a un sens et que ça en a toujours.
Vous êtes chantre de la langue française, mais vous ne dénigrez pas l'anglais non plus.
Pas du tout. Je ne dénigre d'ailleurs aucune langue. La seule que je connaisse vraiment, quasi aussi bien que la française, c'est l'anglaise. J'ai fait des études poussées dans ce domaine et j'ai parlé l'anglais très très jeune. Je l'ai parlé dans des pays anglophones. Ça continue. L'anglais, qui est une langue paradoxalement assez difficile à traduire en français, je tiens qu'il est plus difficile de traduire l'anglais que le russe ou l'allemand. Je parle de sa traduction en français. L'anglais est une langue éminemment poétique. Alors, on en a une perception souvent un peu biaisée parce que ce qu'on appelle l'anglais, c'est l'américain. Vous me direz à juste raison que c'est la même langue, c'est tout à fait exact. Mais l'usage qu'en font les Américains est un peu différent de celui qu'en font les Britanniques. même si encore une fois il s'agit bel et bien à 100% de la même langue. Hein. Comme disait très bien Winston Churchill, hein, les Anglais et les Américains sont les mêmes à ceci près que leur langue les différencie, la langue anglaise et la langue américaine. Mais on sait très bien, n'importe quel linguiste vous le confirmera, que c'est exactement le même idiome. Non, ce qui est absolument certain, c'est que la langue anglaise est probablement un outil de travail prodigieux, d'où d'ailleurs l'une des raisons de son universalité. C'est pas simplement l'impérialisme américain ou le succès de la télévision ou du mode de vie à l'américaine, c'est aussi l'extraordinaire, je dirais, utilité, utilitarisme même de la langue anglaise, qu'on peut s'approprier avec 800 mots, ce qui est très peu, et dans laquelle on peut se faire comprendre. On ne parlera pas l'anglais de Shakespeare, ni celui de Faulkner, mais on se fera comprendre. L'anglais a cette espèce de, je dirais, de malléabilité extraordinaire qui fait que, quel que soit l'accent selon lequel on la pratique, quelle que soit sa maîtrise ou non de sa syntaxe, c'est une trousse à outils formidable. Et moi, j'aime cette idée de l'universalité d'une langue, que ce soit le mandarin ou que ce soit l'anglais. Pour ce qui est de l'hémisphère occidental et de l'Europe en particulier, nous, nous sommes plus familiers de l'anglais, dont il est toujours utile de rappeler que c'est une immense langue de poètes. Il n'est que de lire les poètes anglo-saxons, anglophones, que ce soit des Américains, des Canadiens, des Sud-Africains, des Néo-Zélandais, des Australiens ou des Britanniques.
Alors parlons un petit peu de vos livres à vous, puisque vous en avez écrit combien ? Une vingtaine ?
Non, plus que ça, mais je n'en ai pas fait le compte non plus que du nombre de pays que j'ai traversés.
Alors sur le voyage, on citera notamment Décalage horaire, Carnet transcanadien, Mon Angleterre, Le voleur de ville, enfin vous êtes très inspiré. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette écriture que vous activez pendant le voyage ?
Oui.
Comment se passe-t-elle ?
Comme pour beaucoup, beaucoup de gens qui écrivent, qui voudraient écrire, j'ai toujours un carnet. Moi, j'utilise assez peu les moyens électroniques, donc j'ai un carnet de notes, un petit cahier, toujours à peu près du même format, et je consigne, non pas mes pensées, mais des impressions de voyage qui correspondent à ce que je vois, à ce dont je me souviens, aux lectures qui sont les miennes pendant ce voyage, etc. Et tout ça fait une espèce de masse assez informe, de moments choisis en quelque sorte et consignés. Et puis, je n'écris jamais pendant, mais quand je reviens, il m'arrive, plus souvent qu'à mon tour, d'essayer de donner à tout ça une certaine forme, celle d'un reportage, celle d'un article, éventuellement celle d'un livre. Vous parliez de décalage horaire, qui est, je crois, un des textes à peu près cohérents que j'ai pu publier depuis quelques années. Décalage horaire, c'est lié à une espèce de conflagration de voyage aux quatre coins du monde pendant très peu de temps. J'ai commencé de l'écrire en étant dans les airs, à 30 000 pieds, à 11 000 mètres d'altitude. Et puis, quand je suis revenu, j'ai eu une sorte de... inspiration, c'est beaucoup dire, mais enfin, disons, d'envie ou d'aspiration à écrire quelque chose. Et puis voilà, et c'est devenu un livre assez rapidement. Mais j'ai aucun secret, ni aucune méthode. Hein. Je suis comme tout le monde, je me donne du mal.
Vous écrivez également sur la littérature. Lettres anglaises, lettres d'Amérique, passage pour Modiano, des livres et des jours. Et puis sur le théâtre, j'ai cité donc le livre sur Sacha Guitry et Gérard Philippe. Le théâtre prend une grande place dans votre vie. Vous aimez le théâtre.
Oui.
Vous recevez à la Comédie Française des grands metteurs en scène, des comédiens,
oui,
sur la scène même, pour un entretien public à la façon des masterclass new-yorkaises. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce que vous ressentez lorsque vous êtes face à Séverine, par exemple ?
Oui, ça s'est passé.
Et de votre amour pour le théâtre.
Ça, c'est comme beaucoup des émotions qui traversent nos existences. Ce sont des souvenirs d'enfance. C'est-à-dire que j'ai eu cette chance. J'en ai eu deux dans ma vie. Vous me direz que c'est beaucoup. Je suis bien de cet avis. Beaucoup de gens n'ont pas deux chances dans leur existence. Moi, j'en ai eu deux. La première, c'est que mes parents étaient des gens qui n'avaient pas un rond, mais qui aimaient par-dessus tout les livres et le spectacle. Et deuxièmement, ma deuxième chance a été de commencer ma vie professionnelle très jeune, à l'âge de 20 ans. Ça a été pour moi immensément bénéfique, les deux. Et mes parents m'ont emmené au théâtre quand j'étais très jeune, et j'ai vu comme ça une représentation au Théâtre National Populaire, le TNP, au Palais de Chaillot, à l'époque dirigé par Jean Villard. Et je n'ai pas vu Gérard Philippe sur scène, mais j'ai vu un autre acteur admirable de la troupe du TNP. Ça se passe, ce dont je vous parle, alors que j'ai 7 ou 8 ans, vous voyez, cet acteur, c'était Daniel Sorano, un acteur magnifique venu du grenier de Toulouse, donc de la décentralisation dans laquelle moi-même j'ai commencé ma vie professionnelle à partir de 1968-69. Et j'ai été tellement marqué, sans le mesurer sur l'instant, par ce garçon, ce grand type maigre, mince. Il était métis, Sorano, et il avait une allure, il pratiquait une sorte de danse élégante sur scène, tout à fait formidable. Puis il avait un rire extraordinaire, Sorano aussi. Et alors ce gars-là jouait Argan dans Le Mal d'imaginaire. J'en ai été totalement stupéfait. Et je pense que c'est de là qu'est venu, au long des années, cette espèce de goût immodéré pour le théâtre qui m'a fait, en toute modestie, m'en rapprocher un peu, à la fois à travers les livres, à travers les milliers de spectacles que j'ai pu voir, les quelques amis acteurs que j'ai fini par rencontrer, qui sont devenus des gens très proches. Et puis, effectivement, j'ai franchi le pas le jour où Jean-Michel Ribes, directeur du théâtre du Rond-Point, m'a dit « Écoute, toi, tu es un acteur, mais tu ne le sais pas. » Et je pense que Ribes n'avait pas tort. C'est-à-dire que si j'avais eu le courage, la liberté de moi-même qu'il fallait avoir dans les années de l'adolescence, j'aurais probablement prétendu apprendre l'art dramatique en vue de devenir un comédien. Heureusement pour les spectateurs, il n'en a rien été, mais je suis venu à la scène par des chemins très détournés, très prolongés, très en retard par rapport à toutes ces années-là. Et effectivement, je me trouve maintenant plusieurs fois dans l'année au Studio Théâtre de la Comédie-Française et à la demande de son administratrice générale Muriel Mayette, chargé de mener ce que vous avez à juste titre appelé masterclass, à savoir un entretien très pro, très démonstratif, très partagé avec le public, avec un sociétaire de la troupe actuelle. Le dernier en date étant le Polonais d'origine Andrzej Sewryn, formé donc à Varsovie, qui a mené 30 ans de sa carrière dans son pays d'origine, puis qui est venu en France, qui est devenu français, et qui est, à ma connaissance, le seul Polonais sociétaire de la Comédie-Française. Et Sewryn nous a démontré, à ma suggestion, un certain nombre de manières d'exercer ce métier de comédien qui est le sien, preuves à l'appui. C'est-à-dire que je lui ai demandé, par exemple, de traverser le plateau en jouant la traversée du plateau, ou au contraire, en ne la jouant pas. Je lui ai demandé d'interpréter telle ou telle scène que j'avais choisie pour lui. Je lui ai demandé de me mimer un fou rire.
Vous êtes dur ?
Non, je suis dur pour lui. Vous voulez dire que c'est difficile ? Oui, bien sûr. Mais en même temps, je suis tombé dans le cas de Sewryn, mais ça avait été le cas avec Laurent Stocker juste avant, et ça le sera avec leur successeur. Je suis tombé sur des gens qui sont tout à fait volontaires pour montrer au public ce que c'est que la matérialité que l'interprétation dramatique. Donc, c'est merveilleusement intéressant et agréable. Je ne leur dis pas trop à l'avance de quoi il va retourner, non plus que quels exercices je vais leur soumettre. Mais ces gens que la troupe, enfin plutôt qui ont accepté d'interpréter au fond leur métier, de démontrer ce que c'est qu'un travail de troupe, le font spontanément avec, je crois, quelques plaisirs. Mais leur plaisir n'est rien à côté de celui des spectateurs.
Parmi vos goûts du théâtre, il y a également des lieux comme le théâtre Édouard VII et vous avez écrit sur ce théâtre qui est relié à l'histoire de Sacha Guitry. Qu'est-ce que ce théâtre évoque pour vous ? Est-ce qu'il a une place particulière dans votre cœur ?
Je le connais bien, effectivement j'en ai écrit l'histoire, mais d'abord c'est un très beau théâtre. Je m'empresse de vous dire d'ailleurs qu'on pourrait dire à peu près la même chose à quasi-totalité des salles de Paris. Bon, tous les théâtres à Paris sont beaux, y compris des salles ou des arrière-salles de garage transformées en scène. Moi, il me semble qu'à partir du moment où on décrète que tel lieu est un lieu de spectacle et où ce qui s'y passe a un intérêt artistique, c'est beau. Il n'y a pas forcément des moulures et des sièges en velours rouge, mais ce n'est pas très grave. Bon, Édouard VII, qui est une salle à l'italienne absolument classique, déborde de séduction, c'est vrai. D'abord parce que la place, la petite place piétonne sur laquelle se trouve posé le théâtre est tout à fait charmant. En plus, il a été, c'est un théâtre assez récent, qui date du début du XXe siècle, il a été extrêmement bien conçu. Bon, n'oublions jamais que ça a d'abord été une salle de cinéma. Ce qui veut dire que ces virtualités sont multiples et nombreuses. Une salle qui est d'une certaine façon modulable. Par ailleurs, s'y sont produits des quantités de gens de talent. Bon, c'est vrai, Orson Welles a joué au théâtre Édouard VII. Et puis, pendant longtemps, Guitry en a été comme une sorte de directeur artistique. Bon, Guitry, on sait que ce n'est pas simplement un auteur dramatique. C'était un acteur, un directeur de troupe, un metteur en scène de cinéma, un producteur, un collectionneur, un affichiste, un revuiste. Quel métier n'a pas exercé Sacha Guitry ? Tout ça entre les murs du théâtre Édouard VII, qui d'ailleurs porte son nom. Le sous-titre du théâtre, c'est Sacha Guitry. Alors évidemment, je ne suis pas complètement objectif dès qu'il s'agit de la place Édouard VII, de la statue équestre du roi d'Angleterre Édouard VII, et par-dessus tout du théâtre qui porte son nom.
Sacha Guitry, c'est qui pour vous ? C'est un homme à part ?
Guitry, c'est une forme d'esprit français. Ce n'est pas la seule, mais c'est une forme d'esprit français, c'est-à-dire un goût manifeste du verbe. On parle de l'esprit français, mais vous me direz qu'on le trouve aussi chez Jules Renard ou chez Anatole France, qui sont des gens qu'on ne lit plus forcément et chez qui on trouvera la quintessence finalement de cet esprit-là. C'est-à-dire l'amour des mots, l'amour de l'expression, une formidable prestesse. Guitry est un type qui n'a jamais cessé de travailler de son existence, qui a une œuvre colossale en abondance, en nombre, en chiffres, en nombre de feuillets noircis, en nombre de pièces écrites, en nombre de films tournés en peu de temps. Bon. Mais à côté de ça, il y a chez lui une immédiateté de la formule qui est prodigieuse. Bon. De la formule, c'est d'ailleurs pas joli, une immédiateté de l'expression, et de l'expression juste. Bon. C'est quelqu'un qui est capable, est-ce que c'est dans le Nouveau Testament, ou dans Mon Père avait raison, ou peut-être qu'il attend sa maîtresse qui ne vient pas, il a ce mot formidable, elle est en retard, c'est donc qu'elle va venir. Je trouve ça d'une justesse. Bon, c'est beau, c'est pas forcément vrai, mais ça colle. Tout de suite, Guitry, c'est un type qui a un sens comme ça de la situation. formidable. Bon. Par ailleurs, je ne l'ai pas vu jouer au théâtre, et pour cause, il est mort en 1957, mais je l'ai vu au cinéma. Et il peut être, parfois, un acteur tout à fait prodigieux. Dans « Ils étaient neuf célibataires », il est totalement génial. Dans « Le roman d'un tricheur », qui est d'abord un roman merveilleux, ensuite un film qui ne l'est pas moins, l'acteur Guitry est sensationnel. N'oublions pas qu'il était le fils du plus grand acteur de son temps, Lucien Guitry, qui est en 1900 la première vedette de la scène française, au moins pour les hommes. Pour les femmes, c'est Sarah Bernhardt. Guitry, c'est déjà ça. Et puis, c'est par ailleurs, oui, un sens du mot, un goût du travail aussi, qu'on n'a jamais finalement tellement valorisé, tellement on a cru que ce type procédait par génie, comme ça, par forme d'une espèce d'inspiration permanente. Pas du tout, c'est un travailleur, un gros travailleur. Vous savez, il me fait penser à l'un des 40 actuels qui aime à laisser entendre que tout lui vient comme ça et à qui toute chose est un long effort et ça n'en est que plus méritoire de sa part, c'est d'Ormesson. Chez d'Ormesson, vous avez la même chose. On a l'impression que, voilà, il vous sort un livre tous les ans, c'est de plus en plus merveilleux, les années passent, il rajeunit, l'œil est de plus en plus bleu, il est de plus en plus presse, il est de plus en plus drôle, et que tout ça vient comme ça. Pas du tout. J'ai la chance de le connaître un peu, je peux vous assurer que le secret de d'Ormesson, c'est son travail. Point à la ligne.
Parce qu'il travaille.
Ben évidemment qu'il travaille, mais je suis content que vous pensiez le contraire.
Qu'est-ce qui vous fait rêver, Olivier Barrault, en dehors de tout ce que vous pratiquez sur les voyages, le théâtre? Est-ce qu'il y a encore des choses qui vous font rêver? Vous êtes un complet satisfait?
Non, je suis beaucoup trop en doute de moi-même et beaucoup trop mal dans ma peau pour être satisfait. Non, j'ai le sentiment d'avoir effleuré dans cette longue activité, ça fait plus de 40 ans que je travaille, d'avoir effleuré des sujets qui finalement me structurent, vous les avez cités. Mais je n'ai pas été assez loin dans le cinéma, par exemple. Vous me direz que la journée n'est pas terminée, vous aurez raison. Je n'ai pas écrit encore, à supposer que j'en sois capable, je n'ai pas encore écrit un ou deux livres à quoi je tiens énormément. J'ai l'idée de ces livres et je n'ai pas encore été capable de les consigner, mais peut-être ne le ferai-je jamais. Je n'en aurai jamais ni l'inspiration, ni l'énergie, ni je sais pas quoi. Bon, tout simplement le talent. Bon, j'espère que non. J'espère que je me démontrerai à moi-même que cela aussi je pouvais le faire. Je sais pas. Je suis habité par une espèce d'insatisfaction chronique, de sentiment que j'aurais pu faire beaucoup plus et beaucoup mieux. Non, je vous assure, je dis pas ça pour qu'on me dise mais non, pas du tout. Je vis cela depuis bien longtemps maintenant, depuis toujours sans doute, et ça m'accompagnera jusqu'à la fin. C'est-à-dire que je trouve qu'on peut toujours mieux faire.
Mais n'est-ce pas là votre moteur ?
Aussi sûrement, c'est certainement le premier, vous avez raison, c'est le sentiment qu'il faut y aller, quoi. Faut y aller et il faut rien se passer. Je me passe pas grand-chose quand même, faut bien dire.
Depuis Guitry ou Gérard Philippe, y a-t-il des comédiens qui vous font particulièrement rêver depuis ?
Ah oui, énormément. Mais moi j'aime les acteurs, vous savez, comme disait Ben Hecht, moi j'aime les acteurs, j'ai toujours aimé les acteurs. C'est d'abord un souvenir d'enfance qui m'accompagne jusqu'à aujourd'hui. Et ensuite, la mise en péril que représente l'exercice de ce métier, c'est quelque chose qui m'a toujours profondément bouleversé. Au point que j'ai probablement, de manière inconsciente, eu le désir de ce métier-là, sans aller au-delà. Oui, bien sûr. Je ne sais pas, vous voyez, par exemple, je vais vous citer deux comédiens très connus tous les deux, mais que j'ai la chance de, bon, disons, de connaître assez bien l'un et l'autre, qui sont Claude Riche et Pierre Arditi. Bon, Claude Riche est un type qui a passé les 80 ans maintenant, dont j'ai vu, je crois pouvoir le dire, tout ce qu'il a joué à Paris depuis 40 ans. Bon, parce que j'ai admiré Claude Rich quand je l'ai vu jouer Victor ou Les Enfants au pouvoir de Roger Vitrac au théâtre de l'Ambigu, l'Ambigu comique en 1962. Vous voyez que ça nous ramène quand même pas mal d'années en arrière. Et Rich était totalement admirable dans cette pièce où il joue un enfant. Et je pense que je l'ai accompagné à son insu, puis en me faisant connaître de lui, au point que nous sommes devenus très amis depuis 30 ans. J'ai vu Claude Rich jouer une de ses propres pièces qui s'appelle Un habit pour l'hiver avec l'immense et hélas disparu Claude Piéplu, et avec George Wilson. Et dans cette pièce, vous imaginez Claude Rich, Wilson et Piéplu, dans une pièce tout à fait étonnante, très anglo-saxonne de tonalité, qui était cette pièce de Rich, Un habit pour l'hiver, c'était au théâtre de l'œuvre. Et puis je l'ai toujours vu, et puis je l'ai toujours fréquenté. Et encore aujourd'hui, je me dis qu'on n'a pas tout vu de la personnalité protéiforme, à la fois rassurante, apaisante, ironique et très inquiétante d'un garçon comme Claude Rich. Bon. Arditi, c'est un peu la même chose. Arditi, c'est quelqu'un qui est immensément séduisant dans le boulevard. Moi, je l'ai vu jouer du Jean Poiret, je l'ai vu jouer du Georges Feydeau d'une manière totalement géniale, dans une espèce d'exacerbation, si vous voulez, du rythme, de l'extériorisation dans laquelle il excelle. Et à part ça, je l'ai vu jouer l'idée fixe de Paul Valéry avec Bernard Murat, où il était admirable, d'intériorité. Dans l'école des femmes de Molière, montée par Besas au théâtre de la Commune à Aubervilliers, il était formidable. Il retourne d'ailleurs à la Commune ces jours-ci. Il y a une gamme d'expressivité chez Arditi qui me sidère encore et qui sidère son immense public. Et puis, il y a des tas de gens beaucoup plus jeunes que je trouve tout à fait formidables. Enfin, il faudrait, je ne sais pas, Mélanie Laurent, par exemple. Bon, plein de gens. C'est un métier qui n'est absolument pas en crise en France. Il ne faut pas que le goût de l'autrefois qui m'anime nous fasse occulter le présent. L'art dramatique en France se porte merveilleusement. Le théâtre se porte très bien. L'expression, les salles, le public est là. Il y a du monde dans toutes les salles à Paris, que ce soit dans le théâtre privé ou le théâtre subventionné. Bon, vous avez dans les troupes constituées des acteurs tout à fait extraordinaires. Et puis dans ce qui n'est pas des troupes, dans ce qui sont les débutants, ceux qui seront les vedettes dans 20 ans, je suis sûr qu'il y a des gamins, des garçons et des filles qui sont formidables. Non, non, il n'y a aucune crise de la vocation dans ce métier en France. Pas plus d'ailleurs qu'ailleurs. C'est tellement beau. Moi, je comprends que les jeunes aient envie de s'y risquer.
Oui, et puis la relève existe, effectivement. Vous avez écrit, donc, je le disais, un nombre important de livres sur différents thèmes. Lequel reconnaissez-vous comme un accomplissement littéraire ? Est-ce qu'il y a un livre que vous aimeriez retenir plus que les autres ?
C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre facilement parce que je ne suis pas très satisfait de tout ça, au total.
Qu'est-ce qui ne vous satisfait pas ?
Mais je vous dis, j'ai l'obscur sentiment, mais peut-être, c'est, comment dirais-je, de la prétention, mais j'ai l'impression que je suis peut-être porteur. Allez, allons au fait. Je pense que je porte un ou deux livres plus importants que ceux que j'ai donnés jusqu'à présent, plus personnels, plus sincères encore. Bon. Mais par exemple, je vous dirais une petite chose, mais nous avons avec mon ami ô combien cher Raymond Chira, avec qui j'ai tellement écrit, on a écrit ensemble la préface du théâtre de La Biche, que je tiens pour un très grand écrivain, 6 pièces en un acte chez Gallimard. On en a conçu, Raymond et moi, une préface assez substantielle sur à la fois sur La Biche, sur le Second Empire, mais sur le sens de l'absurde, sur le goût du mot, sur la manière de jouer tout ça, etc. Bon, je pense que le texte assez substantiel que nous avons remis et qui a été publié par Gallimard, en avant-propos au fond des 6 pièces géniales d'ailleurs en un acte de La Biche, je pense que ce texte tient littéralement et qu'il est nourri, réfléchi et en plus frotté de notre expérience à lui et moi, des spectacles ou des pièces de La Biche montées par X ou Y depuis 30 années. Bon, je pense que Décalage horaire, qui est un livre assez court, paru dans la collection Folio de chez Gallimard, dit convenablement cette espèce de bizarre frénésie qui me fait passer du Turkménistan au sommet de la Concagua entre l'Argentine et le Chili. Bon, tout ça quasiment, sinon dans la même journée, mais en tout cas dans la même semaine. Et que la chose étant frottée et nourrie de lectures, de souvenirs, de voyages, je pense que ça se tient à peu près. Voilà, je mettrai ça en évidence, mais enfin...
Est-ce que vous pouvez dire que vous vous sentez à l'aise dans le siècle que vous vivez ? Vous aimeriez vivre dans un autre siècle, si vous aviez
non,
le choix ?
Non, je me sens très mal à l'aise avec moi-même. Et je pense que malheureusement, ça aurait été le cas à quelque autre période qu'il m'aurait été donné de traverser. J'ai une espèce de, je dois dire, de goût avéré pour les années 30, vous voyez, les années de l'entre-deux-guerres, celles qui vont au fond de la naissance du cinéma parlant, je dirais ça, de la naissance du parlant au pacte germano-soviétique, ou à la guerre d'Espagne, ou au Front populaire, disons le Front populaire, c'est-à-dire 1929-30, hein, passage du muet au parlant en France, et l'élection du Front populaire et de Léon Blum à la présidence du Conseil en 1936. Il y a là 5-6 années extraordinaires qui sont sanctionnées d'ailleurs par un nombre incalculable de grandes œuvres, que ce soit en matière musicale, en matière littéraire, en matière cinématographique, ô combien. Bon, la presse était très vivante à cette époque. Je ne dis pas qu'elle soit morte aujourd'hui, elle ne l'est pas. Mais la presse écrite, qui n'avait pas de concurrent électronique, se portait très bien. Et quand vous lisez les journaux de l'époque, les quotidiens, les magazines hebdomadaires, etc., on est frappé de la qualité. Les écrivains contribuaient à la presse quotidienne à l'époque. Bon, ça existe encore un peu, mais ça n'est pas aussi automatique, aussi classique, aussi quotidien, c'est le mot, que ça l'était à l'époque. Moi, j'ai beaucoup aimé les années 30, j'ai beaucoup aimé cette période à la fois de montée des périls, hein, c'est le fascisme en Europe, et puis à côté de ça, c'est la montée des espérances, en tout cas en France, avec l'émergence du Front populaire et le sentiment que peut-être enfin les choses vont changer. Et moi, ce sont des choses qui me meuvent encore énormément.
Vous disiez qu'en théâtre, nous avons énormément de bons metteurs en scène, une relève assurée, beaucoup de bons acteurs. Est-ce que vous estimez qu'en littérature, c'est la même chose? C'est-à-dire que de grands auteurs aujourd'hui sont présents, qu'il y a un véritable talent effervescent. Est-ce que les noms d'aujourd'hui seront retenus demain, selon vous?
Sur le fond, je suis convaincu de ça. Je pense qu'on ne peut pas D'abord, c'est un trait humain que de considérer que c'était plutôt mieux avant. Et pour cause, c'était mieux il y a 30 ans puisqu'on avait 30 ans de moins. Et c'était encore mieux à 50 ans puisqu'on en avait 50 de moins pour ceux dont vous n'êtes pas et qui avaient des souvenirs de 50 années. Mais c'est mon cas. Je veux dire par là que le regard rétrospectif et l'enjolivement d'une certaine manière, l'illuminure, c'est vraiment les livres enluminés du Moyen-Âge par les ecclésiastiques, par les prêtres. Tout ça participe de notre imaginaire naturel. C'est-à-dire qu'on a toujours, je crois, la tentation de penser que quelque chose s'est perdu. Mais quand vous étiez étudiante, c'était il y a peu de temps, et quand vous étiez écolière, c'était il n'y a pas très longtemps non plus, je suis certain qu'on vous disait « Ah, vous êtes moins bon que ceux de l'année dernière ». Ça fait des siècles qu'on vous répète que ceux de l'année d'avant étaient meilleurs que vous. Ben, depuis le temps qu'on nous répète ça, on devrait être plus bactère. Or, ça n'est absolument pas le cas. Donc je crois qu'il n'y a aucun abaissement du niveau. Simplement, il y a un effet d'optique absolument classique et normal et presque légitime qui veut qu'on ait tendance à se référer à un passé qu'on a un peu tendance à idéaliser. Pour répondre à votre question, je suis absolument certain de la qualité de l'expression en français aujourd'hui, que ce soit le fait d'ailleurs des Français ou des francophones. Il faut inclure dans tout ça les gens qui viennent d'ailleurs, mais qui s'expriment dans notre langue et qui, de ce fait, sont des écrivains français. Bon. Et il en est plus d'un de grande qualité qui sont slovènes, italiens, haïtiens, macédoniens, moldovalaques, ce que vous voudrez. Ils ont choisi le français, ce sont donc des écrivains français. Et c'est comme tel qu'il faut les regarder. Eh bien, moi, je suis frappé au contraire de l'expression, là encore, c'est comme les acteurs. Il n'y a absolument aucun assèchement du gisement. L'envie d'expression est intacte. Alors, vous dire aujourd'hui qui seront les Albert Camus ou les Jean-Paul Sartre de demain, j'en serais bien incapable.
Difficile.
C'est d'ailleurs ridicule. Mais qui seront les Michel Tournier, les Jean-Marie Gustave Le Clézio, les Patrick Modiano ou les Yourcenar, qui sont des classiques d'aujourd'hui et qui, pour beaucoup d'entre eux, sont encore en vie, heureusement. J'en sais rien non plus. Mais moi qui passe ma vie à lire, je peux attester de la qualité de quantité de gens qui sont en devenir et sur lesquels nous ne pratiquons pas le regard rétrospectif, qui est la raison pour laquelle le passé, encore une fois, nous apparaît toujours plus beau qu'il n'a été sans doute.
Justement, à propos des livres, vous en lisez beaucoup, nous imaginons, pour pouvoir sélectionner donc, ceux qui font partie de l'émission Un jour un livre.
Un livre un jour.
Un livre un jour. Comment vous organisez-vous ? Enfin, comment on arrive à faire un choix parmi la multitude de livres qui sortent ? Est-ce qu'il n'y a pas trop de livres qui sortent d'ailleurs ?
Non. Il n'y a pas trop de musique, il n'y a pas trop de sculpture, il n'y a pas trop de peinture, il n'y a pas trop de vie politique, il n'y a pas trop, il n'y a jamais assez. C'est consubstantiel à l'être humain que de s'exprimer politiquement, que de dire des choses dans le domaine des arts ou dans tout autre sujet. Non, je ne crois pas. C'est plutôt un signe de vitalité. Et si tout ça se produit, c'est bel et bien qu'on espère que le marché sera là. Bon. Alors, c'est d'ailleurs souvent décevant, c'est vrai. Beaucoup de ces livres sont quelconques, ne justifient pas qu'on les publie parce que la qualité artistique n'y est pas, que le public ne vient pas non plus. Bon.
Comment arriver à effectuer un choix dans cette multitude ?
Il faut se donner du mal, il faut se laisser aussi porter. Pourquoi ne pas le dire, hein, par le gré, le bon gré, les choses qui arrivent.
L'inconnu également.
L'intuition et l'inconnu. Combien de fois cela m'arrive à moi et à mes confrères ou consoeurs que de tomber sur un bouquin d'un illustre inconnu, bon, français ou pas, écrit dans cette langue qui est la nôtre ou traduit de langues parfois lointaines, improbables, etc. Et tout à coup de se dire, mais j'ai jamais lu ça, ou c'est formidable, ou c'est déjà pas si mal, et il faut que j'en parle ou que j'en rende compte. Non, il n'y a pas de méthode particulière, il faut rester amateur de ça, c'est un très joli mot. Moi, je trouve que dans la mesure où on me demande de rendre compte de ce qui paraît en France par prélèvement, par échantillonnage, bon. Moi, mon rôle, c'est plutôt un plaisir. C'est moins d'être une corvée. Ça consiste à aller pêcher dans ce qui paraît, à l'intuition, avec le risque de la déception. Mais si vous voulez, si c'est pas bien ou si ça me paraît insuffisant, je laisse tomber et puis je passe au suivant. Non, c'est pas si mystérieux que ça. Ce n'est pas une alchimie, c'est une pratique. C'est du travail, comme dirait Dormesson.
Une dernière question avant de vous remercier d'être venu dans ce studio. Dans quelques siècles, vous aimeriez que l'on garde quoi en mémoire de vous ? Dans la multitude de passions et de fonctions et de travaux.
Je ne vous parlerai pas de ce à quoi je tiens par-dessus tout sur le plan privé qui concerne mes enfants. Je voudrais vous dire que, écoutez, si très obscurément on se souvenait de moi, ce qui est quand même assez douteux, ce qui aujourd'hui en tout cas me comblerait, c'est qu'on se dise, un, il a aimé, et deux, il a fait aimer.
Depuis le temps que j'entends le chant des sirènes, ce refrain lancinant de ma vie parisienne, depuis le temps que j'entends cet appel éperdu mugir en plein midi mais l'entends-tu aussi, capitaine? Capitaine.